VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 20 janvier 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. C'est aujourd'hui que Donald Trump prête serment ici à Washington en tant que 45e président des États-Unis. La cérémonie d'investiture aura lieu en plein air au Capitole, après avoir prêté serment sur la Bible peu avant le début de son mandat à midi, c'est-à-dire 17h temps universel, comme le stipule la Constitution. Monsieur Trump prononcera un discours d'une vingtaine de minutes. Nous consacrerons une bonne partie de cette édition à l'investiture du successeur de Barack Obama à la Maison-Blanche. Nous aurons aussi notre journal quotidien de la CAN qui se déroule au Gabon, ainsi que les dernières nouvelles sur la Gambie.
L'investiture de Donald Trump comprend plusieurs événements et cérémonies ici à Washington. Le point d'orgue sera la prestation de serment ce vendredi. Eric Manirakiza.
Donald Trump, Mike Pence et leur famille vont d'abord participer à un office religieux à l'église épiscopalienne Saint John, tout près de la Maison-Blanche. Puis seront reçus par le président Barack Obama et sa femme Michelle pour un thé. Les deux couples se rendront ensemble au Capitole, où se tiendra la cérémonie d'investiture. Mike Pence sera investi vice-président par Clarence Thomas, juge de la Cour suprême. Donald Trump, quant à lui, sera investi 45e président des États-Unis par John Roberts, président de cette Cour. Il va prêter serment sur la Bible utilisée par l'ancien président Abraham Lincoln et la Bible que sa mère lui a donnée en 1955. Suivra ensuite son discours d'investiture. Juste après, une jeune soprano de 16 ans, Jackie Evancho, chantera l'hymne national, la bannière étoilée. Conformément à la tradition, messieurs Trump et Pence assisteront à un déjeuner au Capitole avant de défiler sur environ 2,4 km le long de Pennsylvania Avenue qui relie le Congrès à la Maison-Blanche.
À la veille de la passation de pouvoir à Washington, Donald Trump a promis hier de rassembler les Américains alors que les plaies de l'élection présidentielle ne sont pas pansées et que plusieurs milliers de manifestants descendaient dans les rues de New York. Nous allons faire en sorte que l'Amérique soit grande pour tout le monde, partout dans le pays, a déclaré M. Trump, qui est âgé de 70 ans, sur les marches du Lincoln Memorial, en conclusion d'un concert gratuit en son honneur devant des milliers de partisans.
Le milliardaire avait atterri peu après midi, jeudi, à la base militaire d'Andrews, en provenance de New York, à bord d'un avion de la flotte présidentielle, où son épouse Melania, ses enfants et ses petits-enfants avaient également pris place. Il s'est d'abord rendu au Trump International Hotel de Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, avant de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington, en compagnie de son vice-président Mike Pence.
Monsieur Trump a plus tard repris à nouveau son célèbre slogan, d'abord sur Twitter, puis lors d'un grand dîner dans l'imposante gare Union Station. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur, encore plus grande que jamais auparavant, a-t-il dit, lors du dîner devant ses proches, des membres nommés à son cabinet et des donateurs.
Donald Trump a donc passé hier sa dernière journée de simple citoyen à New York, une ville où il a vécu et travaillé jusqu'à présent. Quelle est l'ambiance dans cette ville avant son investiture aujourd'hui à Washington? Après une campagne au ton particulièrement amer, plusieurs milliers de manifestants anti-Trump sont descendus dans la rue hier soir à New York, bastion démocrate, pour écouter des grands noms de la culture américaine. « Résistez et battez-vous chaque jour contre Trump », pouvait-on lire sur les pancartes. Sur place, Jacques Aristide.
La fête pour certains et la riposte pour d'autres. New York, la ville où Donald Trump a fait son nom et sa fortune, se prépare aussi à l'événement phare dans la capitale américaine. Des petits concerts, bals et autres offres spéciales sont organisés dans des restaurants, mais le clou demeure ce rassemblement intitulé We Stand United. Comme pour illustrer cette relation d'amour et de haine entre Donald Trump et New York, beaucoup de New Yorkais n'ont toujours pas digéré l'élection du milliardaire et républicain à la tête du pays. Pour rappel, l'État de New York a voté majoritairement pour la démocrate Hillary Clinton en novembre dernier. Devant le Trump International Hotel à Columbus Circle, des milliers de manifestants, présence notamment de certains noms connus, dont le maire de New York lui-même, Bill de Blasio, le révérend Al Sharpton, et des célébrités comme le documentariste Michael Moore, de même que les acteurs Mark Ruffalo et Alec Baldwin, qui s'est attiré les foudres de Donald Trump en l'imitant dans l'émission Saturday Night Live. Pour l'organisateur Justin Krebs, directeur de campagne chez Move On, il s'agit d'une manifestation pacifique pour envoyer un message à M. Trump pour dire qu'ils sont pour l'égalité, les droits civiques et la défense de l'environnement. Move On et des organisations comme le Planned Parenthood et Greenpeace envisagent de tenir d'autres rassemblements à New York ce vendredi et demain samedi, dont un qui coïncidera avec la marche des femmes à Washington ce week-end. Wall Street, de son côté, attendait l'installation de Trump à la Maison-Blanche pour confirmer son euphorie après toute l'excitation qui avait suivi sa victoire en novembre dernier. Jacques Aristide, New York, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité.
En Gambie, l'opération militaire baptisée « Restaurer la démocratie », lancée peu après l'investiture d'Adama Barrow et le vote unanime d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, a été suspendue quelques heures plus tard pour permettre une dernière médiation régionale. Les leaders de l'Afrique de l'Ouest tentent de convaincre Yahya Jammeh de partir en exil. Jean-Roger Bion.
On a arrêté les opérations et on a donné un ultimatum jusqu'à vendredi à midi heure locale et GMT, a déclaré à Dakar le président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Marcel Alain de Souza. Cette médiation à Banjul, la capitale, est conduite par le président guinéen Alpha Condé après consultation du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, initiateur de la précédente mission auprès de Yahya Jammeh mercredi soir. Si à midi, il n'accepte pas de quitter la Gambie sous la bannière du professeur Condé, alors les troupes vont passer à l'intervention militaire proprement dite, a prévenu M. de Souza, qualifiant les opérations menées jusque-là de tirs de sommation. Le responsable de la CEDEAO a affirmé que 7000 hommes au total seraient mobilisés par les 5 pays engagés, Sénégal, Nigeria, Ghana, Togo, Mali, dans cette opération lancée à partir du territoire sénégalais, pays dans lequel la Gambie est totalement enclavée, à l'exception d'une étroite bande côtière. Les troupes africaines entrées par plusieurs points du territoire gambien ont avancé sans rencontrer de résistance de la part de l'armée ou de la police, a indiqué à l'AFP une source de sécurité en Gambie. Le département d'État américain a exprimé son soutien à cette intervention, considérant que son objectif est de contribuer à stabiliser une situation tendue et de tenter de respecter la volonté du peuple gambien.
Un homme a délibérément foncé sur des piétons ce midi à Melbourne, la deuxième ville d'Australie, tuant 3 personnes et en blessant au moins 20 autres dans une attaque sans lien avec le terrorisme, a annoncé la police qui a ajouté que le conducteur de la voiture a été arrêté.
Le narcotrafiquant mexicain Joaquin El Chapo Guzman a été extradé vers les États-Unis, ont annoncé jeudi le gouvernement mexicain et le département américain de la justice. Guzman, arrêté en janvier 2016 après 6 mois de cavale, était l'un des chefs des cartels de la drogue les plus recherchés après son évasion d'une prison de haute sécurité du centre du Mexique.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pinault sur VO Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Le Sénégal costaud devient le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont fait la différence en 15 minutes de jeu seulement face au Zimbabwe. Victoire 2-0, compte rendu du match avec Amdinsi à Franceville pour VOA Afrique.
Les poulains d'Alou Cissé ont résumé la rencontre dans le premier quart d'heure en marquant 2 buts en 4 minutes par l'intermédiaire de Sadio Mané et d'Henri Savé. Avec cette victoire, le Sénégal consolide non seulement son fauteuil de leader de la poule B, mais il a réussi aussi à vaincre le signe indien, car les Lions retrouvent les quarts de finale 11 ans après. En effet, la dernière qualification du Sénégal remonte en 2006, c'était lors de la CAN égyptienne, d'où la satisfaction d'Aliou Cissé.
Une satisfaction, très heureux pour le Sénégal. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on travaille pour atteindre cet objectif-là. Donc il faut le dédier à notre peuple.
peuple.
Voilà, nos supporters. Faut le dédier aussi à la fédération, à l'État. Il faut le dédier aussi à tous mes prédécesseurs qui ont fait un gros travail pour qu'on en arrive là.
Pour son dernier match, le Sénégal, qui a déjà son ticket en poche, fera face à l'Algérie. Amédine Sy, Franceville, VOA Afrique.
Dans ce groupe B, le Zimbabwe occupe la dernière place aux côtés de l'Algérie avec un point pour chacune des équipes. La Tunisie a en effet profité de la fébrilité de la défense des Fennecs pour s'imposer hier 2-1. La qualification s'éloigne pour les Algériens qui devront impérativement battre le Sénégal lors du dernier match. Place au groupe C, aujourd'hui à Oyem, la République démocratique du Congo, leader de ce groupe, face à la Côte d'Ivoire, champion en titre. Une rencontre très attendue par les deux entraîneurs qui espèrent la victoire au bout. Les détails sur place à Oyem avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire.
Nous allons aborder le match de ce vendredi avec la ferme détermination de garder la tête du groupe, a dit en conférence de presse Florent Ibengué. Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC promet également que son équipe va jouer face à la Côte d'Ivoire différemment du Maroc.
Et garder la même philosophie, quel que soit l'adversaire. Maintenant, tactiquement, on ne va pas jouer de la même façon qu'on a joué contre le Maroc.
Du changement attendu également chez les éléphants, annonce Michel Dussuyer, qui parle de la RDC comme un adversaire compétitif, agressif et très généreux.
Il y aura des changements d'attitude, parce que ce premier match, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait dans un match de Coupe d'Afrique.
Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et le second match du groupe C opposera à 19h, temps universel, le Maroc au Togo. Après la défaite lors de la première journée face à la RDC, Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, est revenu sur ce qu'il qualifie de maître mot pour gagner ce deuxième match.
Je suis persuadé qu'en football, quand on est capable de produire le match qu'on a produit, à un moment ou à un autre, on est récompensé. Donc il faut persister, croire en soi, croire en son partenaire, croire au groupe et ne jamais douter. Meilleur exemple, vous avez vu encore hier le Cameroun qui est mené 1-0 et qui baisse pas les bras et qui à la fin gagne un match très très difficile mais très important.
Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc. Côté togolais, c'est Sébastien Minier, le sélectionneur adjoint, qui était face à la presse ce jeudi. Il espère que les éperviers rééditeront la même performance que face aux champions en titre.
Euphorique, oui, après le match, mais je peux vous dire que dès le lendemain, on était focalisé sur ce deuxième match, ce deuxième monstre qui arrive face à nous, avec des caractéristiques totalement différentes, et encore une fois, essayer de faire rééditer une très belle performance face à un bel adversaire. Ce ne sera pas facile.
Sébastien Minier, le sélectionneur adjoint du Togo sur VOA Afrique.
L'Afrique est au Gabon, ignorer c'est l'annonce, c'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour voir jouer au foot de nombreux talents.
Retour sur la soirée riche en émotions dans le groupe A à Libreville mercredi. Vous le savez, au stade de l'amitié à Libreville, les Lions indomptables sont passés proches de la sortie avant de se reprendre face à une étonnante équipe bissau-guinéenne. Victoire 2-1 pour le Cameroun qui a inspiré Jules Valentin Gué pour son coup de sifflet.
La débauche d'énergie constatée dans la poule A lors de la deuxième journée démontre, s'il le fallait, la volonté des protagonistes de décanter la situation et se positionner favorablement avant les matchs décisifs de dimanche. Face à un Burkina Faso que la qualité de l'effectif pousse tout naturellement vers l'avant, le Gabon, libéré du carcan défensif de la première sortie, s'est mieux exprimé dans un match très engagé qui, sans être violent, a tout de même nécessité 6 remplacements pour blessures, la plupart dus à l'état de la pelouse. Le score de parité qui a sanctionné cette rencontre est équitable, mais n'arrange personne. En deuxième match, le Cameroun, trop prévisible, est bloqué tactiquement par une équipe du Guinée-Bissau, toujours aussi à l'aise dans son rôle d'outsider, n'a trouvé la solution qu'en seconde mi-temps, en ouvrant finalement les couloirs, d'où l'inversion victorieuse du score dans la dernière demi-heure de jeu. Le mental d'acier et l'efficacité dans des tirs pourtant plus lointains sont de retour. Les lignes ont donc bougé dans ce groupe A où tout reste possible. Il faut s'attendre que le même engagement et la même incertitude qui ont caractérisé ces deux rencontres se retrouvent ce soir lors des matchs tout aussi prometteurs de la poule B. À demain.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons avec la Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale sur le chemin de la croissance. Le FMI finance et supervise un programme d'ajustement économique de 3 ans à partir de cette année. Le comité de pilotage constitué des ministres de l'économie du Cameroun, Congo, Gabon et Guinée équatoriale, Centrafrique et Tchad, pays membres de la CEMAC, s'est réuni à Brazzaville. Il a retenu 5 piliers. Il s'agit des politiques budgétaires, les réformes structurelles, l'intégration régionale, la coopération internationale et la politique monétaire et système financier. Le Gabon et le Congo à l'épreuve de sérieux défis de liquidité. Dans ces deux pays, les recettes viennent essentiellement du pétrole. Mais la diminution des prix a porté un coup dur sur leurs finances. L'agence de notation américaine Moody's dit que la gestion financière des crises sociales latentes à la suite des difficiles élections qu'ils ont connues en 2016 ont empiré la situation. Selon Moody's, ils doivent recourir à l'aide du FMI pour financer des plans d'émergence. Le Niger vise l'éducation obligatoire gratuite d'ici 2024. Le gouvernement, syndicats, parents d'élèves, éducateurs, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers doivent convenir une approche commune en matière d'accès, de gouvernance, de financement et de la qualité de l'éducation et de la formation. 30% des enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Cette réforme de gratuité s'étendra jusqu'à l'âge de 16 ans.
Pour revenir sur la Gambie, le Sénégal joue un rôle primordial dans l'intervention dans ce pays, même si la CEDEAO et le Conseil de sécurité de l'ONU ont soutenu l'opération. Le journaliste et spécialiste de la Casamance, Bakary Domingo Mané, pense qu'un nouveau pouvoir en Gambie peut aider à stabiliser le sud du Sénégal, c'est-à-dire la Casamance. Il a d'abord dit à Abdourahman Dia qu'il n'est pas surpris par l'intervention militaire de la CEDEAO.
Compte tenu du comportement du président sortant Yahya Jammeh, qui s'est entêté, disons, à vouloir réunir un peu la volonté des Gambiens qui ont choisi, n'est-ce pas, Barrow comme président de la République. Il a joué avec le temps. La CEDEAO, la communauté internationale, notamment l'ONU, tout le monde s'est mis pour le raisonner. Maintenant, il faut que le président constitutionnellement élu puisse vraiment prendre le pouvoir. Donc, l'un ou l'autre, ça ne surprend personne. Que la CEDEAO intervient là-bas, que la communauté internationale de façon générale intervient là-bas, mais ce n'est pas personne.
Le Sénégal a toujours géré Yahya Jammeh avec prudence à cause notamment de la crise casamançaise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose cette fois-ci que Dakar affiche son soutien à Adama Barrow, le nouveau président?
Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose, puisque si et seulement si on parvient à éradiquer, j'allais dire, la menace Yahya Jammeh, parce que Yahya peut être possibilité. Mais s'il y a des prolongements en Gambie qui vont continuer à faire le sale boulot, évidemment la menace est toujours là. C'est-à-dire que le Sénégal va s'assurer d'éliminer carrément, disons, la menace à Yahya. À partir de ce moment, je pense que le dossier casamancier peut évoluer. Parce que, vous savez, Yahya sert de base arrière, la Gambie sert de base arrière à la rébellion casamancière, notamment aux hommes de Saint-Sayou. C'est également d'ailleurs nous qui font partie de la garde rapprochée, n'est-ce pas, de Gambie.
Mais il y a quand même l'équation de l'armée gambienne. Est-ce que vous pensez qu'elle sera loyal à Adama Barrow?
Il faut qu'il affiche vraiment son autorité. Ce n'est pas en prenant le bâton, non. Je pense qu'aujourd'hui, il doit s'acheminer des réformes, y compris réformer l'armée, réorganiser l'armée gambienne, qui est complètement délitée, parce que là, franchement, il n'y a pas d'organisation au sein de l'armée-là. C'est pourquoi il y a des mis à une ligne sur cette armée. Donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de réorganiser cette armée, de manière à créer les conditions d'une armée républicaine. Et à partir de ce moment, évidemment, je pense que cette armée-là, quel que soit le président qui va venir, il va lui obéir.
Le journaliste et spécialiste de la Casamance, Bakary Domingo Mané.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Au Mali, le président Ibeka, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu hier à Gao pour présenter les condoléances du peuple malien à la population de Gao et rendre visite aux nombreux blessés de l'attentat perpétré contre les éléments du MOC la veille. Les réactions sur place à Gao après l'attentat, Boubacar Touré, notre correspondant.
Sur les lieux de cette attaque meurtrière, c'était la désolation. La tristesse se lisait sur tous les visages.
C'est un sentiment de douleur. Nous, quand même, on s'attendait à ça. Parce que vu les dispositifs de la sécurité, même que l'administration a pris au niveau du MOC, ce ne sont pas des dispositifs pour sécuriser des gens qui ont été désarmés et les faire rentrer dans une cour. Donc comment est-ce qu'une voiture peut venir remplie d'explosifs avec des kamikazes et rentrer juste dans la cour? Il y a des berdems devant la cour. Or, on dit que la sécurité est assurée par les Nations Unies.
Dans une atmosphère très tendue, un officier de l'administration tente de calmer des jeunes très remontés.
Après la mort, on ne veut plus entendre quelque chose. On nous a colonisés jusqu'à présent, ça ne va pas. Nous, on est devenus comme des arachides qu'on nous met dans les tripes là pour nous vendre.
Non, c'est pas ça. C'est que le travail est tellement difficile. Comment? Les gens qui font du mal là, on ne peut pas les gérer.
Non, on sait. Vaut mieux qu'on interdit votre chose. On est au courant de tout ce qui se passe.
Entre-temps, les ambulances font des va-et-vient et vient pour évacuer les blessés. À l'hôpital, des jeunes se mobilisent pour le don de sang.
Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de sang. Il faut leur venir au secours. Donc, on est en train de mobiliser la jeunesse pour pouvoir faire cette action de patriotisme en donnant des sang.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété 3 jours de deuil national sur l'étendue du territoire. Voici la réaction des gens interrogés.
Sur le plan humain, c'est une très bonne chose. Mais il faut peut-être faire avancer les choses. Aller très rapidement au cantonnement, au désarmement. Ce qui est arrivé ici à Gao est très grave.
Là, c'est les médecins après la mort. Parce que moi, je pense que tout ça, là, c'est la patrie mixte qui a amené tout ça. Normalement, on doit cantonner les gens d'abord. Ceux qu'ils doivent intégrer dans l'armée, on doit les intégrer. Ceux qu'on doit leur donner quelque chose, on doit les donner. Vraiment, aujourd'hui à Gao, tout le monde est en deuil. La vie, tout est mort. Vraiment, nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire maintenant.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
En République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, s'implique dans les efforts déployés pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. En visite à Kinshasa pour des obsèques, il a discuté de la question avec les évêques catholiques, le nouveau Premier ministre Sami Badibanga et le chef de la MONUSCO. Pour parler des tractations en cours, Eddy Sango a joint à Kinshasa l'une des figures de l'opposition, Martin Fayulu.
Le Conseil national est mis en place, mais maintenant il faut désigner les 28 membres. Le président est connu, il faut désigner les 3 vice-présidents, les questeurs et les rapporteurs. Les discussions durent parce que chaque partie prenante campe sur ses positions. Nous, au niveau du rassemblement, nous avons fait des concessions, mais nous avons un problème avec nos amis et la majorité qui est. Et cette majorité change de position à tout bout de champ, ce qui fait que ça devient difficile pour trouver un terrain d'entente. Mais nous pensons avec les évêques que c'est samedi qu'on doit pouvoir signer cet arrangement particulier parce que au-delà du samedi, ça deviendra un peu compliqué pour réaliser l'objectif d'organiser les élections avant décembre 2017.
La majorité voudrait avoir la part du lion en brandissant les quotas au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous répondez à cela?
Nous disons à la majorité que c'est de leur faute si aujourd'hui on n'a pas eu les élections. La structuration de la politique congolaise dit que tous les 5 ans, il faut avoir les élections pour juger des forces en présence. Aujourd'hui, on ne peut pas brandir la majorité de 2011 et nous dire que c'est cette majorité qui doit compter. L'accord dit qu'il y a 2 parties prenantes. Ceux qui ont participé au dialogue de Kinshasa et de l'Institut de l'OIA, ils ont signé un accord le 18 octobre dernier. Et ceux qui n'ont pas participé, donc nous du Rassemblement et du Front. Alors il y a les 2 parties prenantes et sont dans ces 2 parties prenantes, il y a des composantes. L'accord est clair, c'est le président du Conseil des Saints et du Rassemblement qui présente le Premier ministre. Il n'y a pas 36 solutions. Sami Badibanga n'est pas membre du Rassemblement. Le président du Rassemblement, le moment voulu, va désigner désigner le premier ministre. C'est dans son pouvoir discrétionnaire.
Vous parlez du pouvoir discrétionnaire, mais c'est les mêmes arguments que vous rétorque la majorité pour laisser au président de la République désigner les premiers ministres.
Non, l'accord est très clair. C'est le président du Conseil des sages de l'Assemblée qui présente le premier ministre. Et la nomination, c'est une formalité.
L'opposant congolais Martin Fayulu, membre du Rassemblement.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Les soldes des militaires burundais de l'AMISOM, des arriérés de plus de 12 mois, seront payés. C'est la promesse faite par le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, l'Algérien Smaïl Cherghi, qui vient de séjourner pendant 2 jours à Bujumbura, où il a rencontré le président Pierre Nkurunziza. L'ambassadeur Cherghi avait auparavant rendu hommage aux militaires burundais tombés sur le champ de bataille en Somalie. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans une conférence de presse à l'aéroport international de Bujumbura, le commissaire de l'Union africaine a affirmé que prochainement, les soldes militaires burundais combattant les terroristes El-Shabaab en Somalie seront payés dans un mémorandum d'entente signé entre le gouvernement burundais et l'Union africaine. L'ambassadeur Smaïl Cherghi indique qu'un terrain d'entente a été trouvé.
Les retards enregistrés dans le paiement de ces salaires ne touchent pas que le Burundi. Je suis heureux de vous dire que nous avons réglé cette question aujourd'hui ici et également le Burundi a signé avec moi aujourd'hui le mémorandum qui permet à l'Union africaine de transférer ses salaires au bénéfice de la défense nationale ici et de nos soldats. C'est un bon développement. Cela permettra à ces forces de continuer à travailler dans la sérénité.
À sa descente d'avion, le commissaire de l'Union africaine s'est rendu mercredi au cimetière de Mwanda où sont enterrés les militaires burundais qui sont tombés sur le champ de bataille en Somalie. Smaïl Cherghi a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du général Juvenal Niyoyunguruza tué en 2009 alors qu'il était le commandant second de la MISOM. Pourquoi s'être rendu d'abord au cimetière de Mwanda, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaïl Cherghi?
Je crois que c'est un devoir élémentaire que de venir ici rendre hommage à nos soldats de la paix qui ont payé le prix le plus élevé pour donner la possibilité à leurs sœurs et frères somaliens de retrouver la quiétude, la paix, la sécurité. Je pense que c'est le minimum et nous continuerons à fleurir leur mémoire et à nous rappeler de ce geste suprême qu'ils ont fait.
Cette visite du patron de la paix et de la sécurité à l'Union africaine intervient au moment où les autorités burundaises ont déjà amorcé le processus de retrait des plus de 5000 militaires burundais qui combattent El-Shabaab en Somalie. Le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, a indiqué que même si les militaires burundais rentraient ou pas au bercail, leur courage et abnégation sera toujours reconnu par toute la communauté internationale.
Ils l'ont fait en Centrafrique. C'est un témoignage bien dû. Encore une fois, nous leur souhaitons un très bon repos. Et au pays qui les a envoyés, nous les renouvelons nos remerciements et notre reconnaissance.
L'argent des militaires burundais qui peut arriver d'un moment à l'autre va-t-il transiter par leur compte comme le veut l'Union européenne après les sanctions prises à l'encontre du Burundi depuis plus d'une année? Difficile de trouver une réponse pour le moment car l'Union européenne n'a pas voulu s'exprimer avant de voir le mémorandum d'entente. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.